en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Doyen, votre illustre prédécesseur, Alexis de Tocqueville, parlant de la Cour suprême des États-Unis dans sa démocratie en Amérique, s'émerveille. Lorsque, dit-il, l'huissier, s'avançant sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots, l'État de New York contre celui de l'Ohio, on sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Que dirait-il si, sortant de sa tombe dans le cimetière de Cannes et passant par Luxembourg, il entendait le greffier de la Cour de justice de l'Union européenne annoncer Commission contre Italie, Hongrie contre Slovaquie ou Parlement et Conseil contre Commission. Nous ne sommes pas à Luxembourg dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Nul doute que la Cour de justice a joué et continue de jouer un rôle majeur dans le fonctionnement et le développement de l'Union européenne. Nul doute que ces arrêts ont conduit à des évolutions majeures dans le droit des États membres. Au fil des années, ceux-ci ont dû changer ou au moins adapter des pans entiers de leur législation au point qu'on a pu parler de gouvernement des juges. Ces changements ont toutefois été assez bien acceptés parce qu'ils résultent avant tout, et il faut prendre garde à ne jamais l'oublier, du mouvement induit par les traités eux-mêmes dont la Cour de justice n'est après tout que l'interprète et dont l'orientation est claire, celle des traités. Création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, d'un marché unique sans frontières intérieures, d'un espace de liberté tant politique qu'économique. À cet égard, grande est la différence avec l'autre Cour européenne, celle des droits de l'homme, qui ne se fonde pas pour rendre ses arrêts sur une constitution et sur une législation aussi développée que ne le sont les traités et le droit dérivé. Grande est aussi la différence avec d'autres cours, tant nationales qu'internationales, parce que la Cour de justice est sans doute le tribunal le plus puissant du monde, puisqu'elle peut condamner les États membres à des astreintes et à des amendes. 50 000 euros par jour d'astreinte contre l'Espagne, par jour, pour ne pas avoir récupéré des aides illégales, plus de 57 millions d'astreintes par période de 6 mois et 20 millions d'amendes à la charge de la France pour ne pas avoir suffisamment poursuivi les infractions en matière de pêche. Qu'est donc cette cour si particulière? C'est un vaste sujet. Votre académie, Monsieur le Président, comprend 6 sections. Je vais me placer du point de vue de chacune d'entre elles. Histoire et géographie. Les débuts sont modestes. C'est dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Luxembourg que le président Pilotti et les 6 autres juges de la Cour de justice de la CECA, au nombre desquels Jacques Rueff, ainsi que l'avocat général Maurice Lagrange, un membre du Conseil d'État français, ont prêté serment le 4 décembre 1952. La Cour a été logée dans ce qui allait devenir plus tard la Villa Vauban, qui est aujourd'hui un musée de Luxembourg, mais les audiences se sont tenues au cercle municipal, où pour le besoin, on installait une estrade. Et c'est même dans ce même cercle municipal que les membres de la nouvelle Cour de justice des communautés européennes ont prêté serment le 7 octobre 1959. Aujourd'hui, la Cour siège sur le plateau du Kirchberg, dans des bâtiments dont la configuration actuelle est due à un architecte français, Dominique Perrault. 200 000 mètres carrés abritent plus de 2 000 agents. Le président Robert Lecour a écrit qu'à son arrivée en 1962, la Cour était assez modérément occupée par quelques affaires de ferraille ou de fonctions publiques. Aujourd'hui, la Cour dans son ensemble, et je reviendrai sur ce point dans un instant, juge près de 1800 affaires par an. Son budget est de plus de 350 millions d'euros. Elle accueille près de 20 000 visiteurs chaque année. Ces modalités de fonctionnement, très continentales, sont telles qu'elle est restée elle-même à travers les élargissements successifs de l'Europe communautaire. Elle a aussi absorbé l'extension des compétences de l'Union. Pendant longtemps préposée au jugement de questions essentiellement économiques, elle touche aujourd'hui à toutes les matières de la vie sociale. Plaçons-nous maintenant du point de vue de la morale et de la sociologie. Qui sont les juges de l'Europe communautaire ? La Cour porte mal son nom. Le traité de Lisbonne dit curieusement ceci : la Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice. Ça, c'est l'allégorie communautaire. En réalité, la structure de la Cour a considérablement évolué. On lui a adjoint, en 1988, un tribunal. Puis, en 2005, un tribunal de la fonction publique. Mais cette dernière innovation aura été de courte durée parce que ce dernier tribunal va être supprimé au bénéfice d'un considérable renforcement du tribunal de l'Union européenne qui va passer de 28 à 56 membres. Aujourd'hui donc, à l'heure actuelle, l'institution Cour de justice de l'Union européenne comprend trois juridictions, dont la Cour de justice proprement dite, celle à laquelle j'appartiens, et d'ici quelques mois, elle n'en comprendra de nouveau plus que deux, celle à laquelle j'appartiens, la Cour de justice, et le tribunal, qui peut être considéré comme un tribunal général, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. La Cour de justice a été saisie l'année dernière de 713 affaires, le tribunal en a reçu 831, le tribunal de la fonction publique un peu moins de 200. Le contentieux communautaire dans son ensemble, aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 2000 affaires chaque année. La Cour de justice compte 28 juges, un par État, et 11 avocats généraux qui sont très semblables aux commissaires du gouvernement qu'on appelle aujourd'hui le rapporteur public devant la juridiction administrative française. Le tribunal de l'Union européenne, lui, comprend 28 juges, bientôt il en aura 56, et le tribunal de la fonction publique en comprend 7. Les membres de la Cour et ceux du tribunal sont proposés par les États et nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le traité de Lisbonne a été un tournant majeur pour ce qui concerne les nominations à la Cour et au tribunal. En effet, un comité de 7 membres a été créé afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général, et cela tant pour la Cour donc que pour le tribunal. Ce comité est actuellement présidé par le vice-président du Conseil d'État français, M. Sauvé, et il compte un seul ancien membre de la Cour de justice. Les autres membres sont des membres ou anciens membres de cours constitutionnelles ou supérieures des États membres. Et d'ailleurs, le président du Bundesverfassungsgericht, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande, vient d'y être nommé. Le comité a déjà donné plusieurs avis négatifs. Les États l'ont suivi. La tradition s'est d'ores et déjà installée qu'on ne passe pas outre un avis du comité. Le comité a donné un contenu plus précis aux critères de nomination prévus par le traité. Le président de la Cour est élu par les juges. La Cour siège en grande chambre de 15 membres, ou bien en chambre à 5 juges, ou bien encore en chambre à 3 juges. Elle siège exceptionnellement en formation plénière et donc avec ses 28 juges. L'Institut ne peut qu'être sensible à la place du français à la Cour de justice. La Cour est certes une institution multilingue. Cela veut dire que les audiences ont lieu dans les 24 langues de l'Union, ce qui est un élément essentiel de la démocratie européenne. Et donc on traduit les interventions orales et on traduit les pièces vers le français. Mais la Cour délibère en français, elle délibère en français sur ce qu'on appelle un projet de motif, c'est-à-dire un projet d'arrêt rédigé en français, et par commodité, le français est devenu au fil des années la langue de travail de la Cour. La Cour a complètement refondu son règlement de procédure il y a 3 ans et les progrès de ce qu'on appelle l'espace de liberté de sécurité et de justice a rendu nécessaire la création d'une procédure préjudicielle d'urgence, par exemple lorsque une personne est détenue ou dans le cas de litiges familiaux, et ces affaires sont jugées dans un délai de quelques semaines. Alors les autres affaires, ce qu'on pourrait appeler les affaires normales, sont jugées dans des délais très raisonnables pour une juridiction de ce type, puisqu'il faut environ 15 mois pour juger une question préjudicielle, 17 pour les recours directs et 14 pour les pourvois qui peuvent être formés devant la Cour contre les arrêts rendus par le tribunal. Fondamentalement, la Cour de justice est une juridiction continentale. Sa procédure est proche de ce que nous connaissons dans la juridiction administrative française, ce qui n'est pas étonnant, puisque la juridiction administrative française en a inspiré bien des traits, et notamment la fonction d'avocat général. Regardons maintenant du côté de la législation, du droit public et de la jurisprudence. Les fonctions de la Cour, ses tâches, n'ont pas changé. Elles sont, depuis l'origine, au nombre de 3. D'abord, assurer le respect de la légalité par les institutions de l'Union. Ensuite, assurer le respect par les États membres de leurs obligations communautaires. Et enfin, assurer l'unité d'application du droit de l'Union européenne. Cette dernière tâche, assurer l'unité d'application, qui est peut-être la première par ordre d'importance, représente aujourd'hui à peu près les 2/3 des affaires. Elle est assurée par la voie de ce qu'on appelle les questions préjudicielles. Ce mécanisme, imaginé dès le traité de la Communauté européenne du charbon de l'acier, est génial dans sa simplicité. Lorsqu'une question d'interprétation ou de légalité du droit de l'Union se pose devant une juridiction nationale, cette juridiction nationale renvoie la question à la Cour et cette dernière se prononce avec l'autorité de la chose jugée. Les grands arrêts du droit communautaire ont été rendus à l'occasion de questions préjudicielles. L'arrêt van Gentenlos en 1963, par lequel a été consacré l'effet direct du droit communautaire. En 1964, l'arrêt Constat contre Enel, par lequel la Cour a reconnu la primauté du droit communautaire sur celui des États membres. L'arrêt de février 1979 des Cassis de Dijon, auquel le professeur Poujade ne sera pas insensible, qui a posé les principes de la reconnaissance mutuelle. La physionomie du contentieux communautaire a depuis beaucoup évolué. Le temps est loin où l'essentiel des affaires portait sur les libertés fondamentales du marché commun. Aujourd'hui, la matière première qui est la nôtre est une très abondante législation, de plus en plus technique. Nous nous trouvons donc dans une situation très comparable à celle des cours supérieures nationales. Par ailleurs, les domaines du contentieux sont le reflet du développement des compétences de l'Union européenne. En 2015, sur les plus de 700 affaires qui sont entrées à la Cour de justice, on ne compte qu'une 60aine d'affaires qui concernent les différentes libertés fondamentales du marché commun, la liberté d'établissement, la liberté de circulation des travailleurs. Mais, en revanche, presque 100 affaires qui concernent les droits de propriété intellectuelle et industrielle, plus de 50 affaires qui concernent l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment le droit pénal, 50 affaires environ qui concernent la fiscalité, une 50aine d'affaires qui concernent les questions d'environnement. Ces quelques exemples permettent d'illustrer ce déplacement du centre de gravité de la jurisprudence européenne qui illustre en fin de compte tout simplement ce que sont les nouveaux horizons du droit communautaire qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'Union. Prenons quelques domaines topiques. Le développement des technologies de l'information, les grandes questions de société et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Les technologies de l'information donnent lieu à des litiges qui mettent toujours en cause la question de l'équilibre entre les droits et les libertés. Dans un arrêt remarqué de 2010, Völker et Markus Schäcke, la Cour a déclaré invalide, c'est-à-dire illégale, les dispositions de règlement sur le financement de la politique agricole commune qui obligeait à publier de manière complète les données concernant les bénéficiaires des aides agricoles, avec leur nom, l'endroit où ils habitaient, les montants perçus au titre d'aide. Et la Cour a considéré que si un tel système pouvait être envisagé pour les personnes morales, pour les sociétés, une telle publication était disproportionnée pour les personnes physiques et qu'elle ne réalisait pas la pondération équilibrée des intérêts en cause. La Cour a franchi un grand pas dans la protection des libertés publiques en déclarant purement et simplement illégale la fameuse directive de 2006 qui prévoyait, vous vous en souvenez sans doute, l'obligation pour les opérateurs de communication électronique de conserver les données relatives aux communications pendant un délai qui pouvait aller de 6 mois à 2 ans, et cela dans le but d'assurer la sécurité publique et la lutte contre la criminalité pour que les autorités policières nationales puissent y accéder. La Cour a évidemment reconnu que cela répondait à un intérêt général, mais elle a considéré que la conservation des données avait été conçue de manière tellement large et avec un tel manque de garantie qu'elle ne satisfaisait pas au principe de proportionnalité. C'est le fameux arrêt Digital Rights de 2014. Dans ce même arrêt, la Cour a précisé son contrôle en matière de liberté publique en disant tout simplement que lorsque les droits fondamentaux sont en cause, il lui appartient d'exercer un contrôle complet sur les choix législatifs faits par le législateur de l'Union. Autrement dit, dès qu'on est en matière de droits fondamentaux, le contrôle de la Cour sur le législateur communautaire est un contrôle complet. Quelques semaines plus tard, a été rendu l'arrêt phare de ces dernières années, l'arrêt dans l'affaire Google Spain. Cette décision a porté un coup d'arrêt à la liberté quasi absolue des géants du net. La Cour a décidé qu'un moteur de recherche doit faire disparaître des résultats, les informations qui seraient de nature à porter atteinte à la vie privée. Voilà la contradiction apportée à la fameuse affirmation de Mark Zuckerberg, selon laquelle, à notre époque, la vie privée n'existe plus. Bien plus, le 6 octobre dernier a été rendu l'arrêt Schrems, qui est un coup de tonnerre dans l'univers du net. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que les conditions des transferts de données d'Europe vers les États-Unis, qui avaient été définies par la Commission européenne en 2000, était incompatible avec le droit de l'Union et en particulier la Charte des droits fondamentaux. L'affaire avait son origine dans un recours formé par un citoyen autrichien, client de Facebook, qui s'était opposé à ce que ses données personnelles soient envoyées sur des serveurs aux États-Unis, au motif que les autorités américaines y auraient accès, comme le prouvaient les déclarations d'Edward Snowden sur les pratiques de la NSA et du FBI. Les questions de société, maintenant, elles occupent une place de plus en plus grande. Ainsi, la Cour a-t-elle dû s'interroger sur la notion d'embryon humain au sens de la directive de 1998 sur la protection des inventions biologiques. Pour vous donner une idée des questions qui sont posées dans ces matières, les difficultés de telles affaires apparaissent clairement. Dans un premier temps, la Cour a considéré qu'un ovule non fécondé, induit à se diviser par voie de parthénogenèse, avait la capacité de se développer en un être humain et que l'invention qu'on voulait breveter, l'activation de cette parthénogenèse, ne pouvait par conséquent pas être brevetée. Quelques années plus tard, la Cour a été ressaisie de la même question, à la lumière de connaissances scientifiques différentes, et elle a ouvert la porte à une possibilité de breveter de telles inventions à la condition que devant le juge national, il soit établi que le résultat de l'activation, c'est-à-dire le parthénote, n'ait pas la capacité de se développer en un être humain. Quelques mots de la citoyenneté européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La citoyenneté européenne et l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont devenus le cœur de métier de la Cour. Dès que la citoyenneté est en jeu, la Cour est compétente. Elle dit qu'il s'agit du statut fondamental des ressortissants des États membres. Il s'oppose à toute mesure nationale qui aurait pour effet de priver un citoyen de l'Union de la jouissance effective des droits qui en dérivent. Ainsi, par exemple, privé de droit de séjour dans l'Union européenne, un ressortissant d'État tiers, non membre donc dans l'Union, dont les enfants en bas âge ont la citoyenneté de l'Union, priverait ses enfants de leur droit de résider dans l'Union. Dans cette mesure, doit être accordé un droit de séjour et la possibilité de travailler aux parents. La Cour a dû tracer les limites entre le droit de l'Union et le droit international dans un cas assez extraordinaire, celui d'un chef d'État qui voulait absolument se rendre dans un autre État membre. Il s'agissait du président de la Hongrie, qui entendait participer à l'inauguration d'une statue de Saint-Étienne en Slovaquie, dans une région où résident des minorités hongroises, ce dont, comme vous pouvez l'imaginer, les autorités slovaques ne voulaient pas entendre parler. Le président de la Hongrie est allé jusqu'à la frontière, où on lui a signifié l'interdiction d'entrer. La Hongrie a demandé à la Commission de lancer une procédure de manquement contre la Slovaquie, ce qu'elle a refusé de faire, et c'est donc la Hongrie elle-même qui a saisi la Cour d'un recours en manquement contre la Slovaquie. Et la Hongrie a été jusqu'à invoquer la directive sur les droits des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur les territoires des États membres. La Cour, par un arrêt de grande chambre, a répondu que le statut des chefs d'État relevait de règles coutumières du droit international et non des règles de circulation applicables à tout citoyen, et que donc le droit de l'Union n'imposait nullement à la Slovaquie de laisser entrer sur son territoire le président de la Hongrie. Année après année se construit l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À ce titre, la Cour doit se prononcer régulièrement sur des questions de droit pénal, comme celles qui concernent le mandat d'arrêt européen, sur des questions de droit civil, sur des questions d'immigration, sur des questions d'asile. Sans entrer nullement dans le détail, je voudrais tout de même relever devant vous qu'il s'agit là de domaines sensibles qui touchent aux attributions régaliennes des États membres, aux libertés et à la Convention européenne des droits de l'homme. Passons à un autre domaine, économie politique, statistiques et finances. La crise des dettes souveraines a amené les États membres à mettre en place des instruments de gouvernance économique. Ils l'ont fait par des actes de l'Union, mais aussi par des traités parallèles aux traités de l'Union. Celui qui a institué, vous vous en souvenez, le mécanisme européen de stabilité, et puis le traité sur la stabilité, la gouvernance, la coordination et la gouvernance, dont les suites ont d'ailleurs été portées devant le Conseil constitutionnel français. La Cour a été interrogée par la Suprême Cour d'Irlande sur la validité même de la création du mécanisme européen de stabilité. L'arrêt de la Cour a été rendu en plénière. Pour la première fois, celle-ci a été amenée à contrôler une révision du traité. Et elle a dû se prononcer sur la compatibilité du mécanisme européen de stabilité avec les dispositions du traité sur la politique économique et monétaire. La Cour a exercé un contrôle sur la décision du Conseil européen de réviser le traité. Elle a dit qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le sens de la révision, parce qu'il s'agissait là d'un choix du constituant, mais qu'il lui appartenait de contrôler si la procédure de révision simplifiée et le domaine de compétence de la procédure de révision simplifiée avaient bien été respectés. Ensuite, elle a réfuté un à un les arguments sur l'incompatibilité du mécanisme européen de stabilité, et en particulier celui qui consistait à dire que ce mécanisme aurait réalisé un contournement de l'interdiction de renflouement des États membres qui découle du traité de Maastricht. C'est ensuite le Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle allemande, qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, a saisi la Cour d'une question préjudicielle. Elle l'a d'ailleurs bien choisie. Elle a tout simplement demandé si la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne d'acheter des titres d'État sans limite de montant était compatible avec le traité. C'était la décision qui avait été annoncée très tôt par le président Mario Draghi et qui avait donné lieu, vous vous souvenez, à discussion. Fort habilement, et comme à son habitude, la Cour constitutionnelle allemande avait laissé entendre que pour elle, ça n'était pas compatible et qu'il s'agissait là d'un dépassement manifeste de ses compétences par l'Union. ce à quoi elle-même devrait s'opposer à cause de la loi fondamentale allemande. Mais toutefois, qu'il pourrait en aller autrement si la Cour de justice posait de très strictes conditions. Ça revenait évidemment à dicter à la Cour sa copie. L'arrêt a été rendu le 16 juin dernier dans une affaire, cette affaire qui s'appelle l'affaire Gauweiler, du nom d'un des requérants devant la Cour constitutionnelle allemande. Elle a fait grand bruit, puisqu'était en cause le programme d'opération monétaire sur titre, donc cet élément essentiel de stabilité du système monétaire européen. Et la Cour a considéré que la décision prise par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne était compatible avec le traité, dès lors que la Banque centrale européenne avait annoncé qu'elle n'achèterait pas directement de titres d'État, mais qu'elle les achèterait sur le marché secondaire après qu'un prix se serait formé. Je n'aborde pas les questions de fiscalité parce que ça nous mènerait trop loin, mais je ne fais que les mentionner en passant. Il s'agit là également d'un domaine dans lequel la jurisprudence de la Cour joue un grand rôle. Philosophie. Une des grandes questions posées aux juristes ces dernières années est celle des rapports de système juridique. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public, c'est le titre d'un cours célèbre donné en 1926 par Kelsen, il fallait bien que je le mentionne, monsieur le professeur Delvolvé, en passant, à l'Académie de droit international de La Haye. Peut-être Kelsen ne serait-il pas trop aujourd'hui pour nous aider à réfléchir sur les rapports de système, parce qu'il s'agit plus seulement, pour ce qui nous concerne, des rapports entre le droit national et le droit communautaire ou droit de l'Union, mais des rapports des différents systèmes internationaux entre eux et avec les systèmes nationaux. La clé du problème qui avait été donnée par le grand juriste autrichien à l'époque est, j'en suis persuadé, toujours valable. Tout simplement parce que c'est du bon sens. Si on veut faire vivre ensemble des systèmes distincts sans les fusionner, il faut soit les subordonner l'un à l'autre, soit les coordonner. Malheureusement, ni l'une ni l'autre option n'ont été clairement choisies pour ce qui est de l'Europe. Mais je laisse ici la théorie dont vous savez que, selon Paul Morand, les théoriciens ne vivent pas et les créateurs risquent de mourir, et j'aborderai simplement et très rapidement les trois points d'actualité suivants. Les rapports de la Cour avec les cours constitutionnelles, ses rapports avec le Conseil de l'Europe et ses relations avec l'Organisation mondiale. Les relations avec les cours constitutionnelles et de manière générale les cours supérieurs des États membres, c'est-à-dire les cours qui donnent le « là », se sont banalisées et les rapports de la Cour de justice avec le Conseil d'État français sont à cet égard un exemple topique. Presque toutes les cours constitutionnelles des États membres ont saisi la Cour de justice. Les questions, certes, peuvent ne pas être dépourvues de toute malice, comme celle de la Cour constitutionnelle allemande dont je viens de vous parler. D'autres peuvent avoir des effets extrêmement positifs, comme le premier renvoi du Conseil constitutionnel français dans l'affaire Jérémy. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait posé au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'absence de recours en cassation contre une décision d'une chambre de l'instruction d'une cour d'appel accordant l'extension d'un mandat d'arrêt européen. Le Conseil constitutionnel s'est demandé si la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire l'acte qui a fondé le mandat d'arrêt européen, ne s'y opposait pas, parce que cette décision cadre fixe un délai très court de 30 jours pour prendre la décision. Il a saisi de la question la Cour de justice. La Cour a adopté une position très souple. Elle a considéré que rien ne s'opposait à un recours en cassation suspensif, pourvu que la décision finale intervienne dans le maximum du délai prévu par la décision cadre, c'est-à-dire un délai total de 90 jours. Le Conseil constitutionnel a pu, dans ces conditions, juger que le droit à une protection juridictionnelle complète impliquait qu'un recours en cassation fût possible. Et ce dialogue des juges a donc abouti ici à un réel progrès du droit et, il faut le dire, a comblé une lacune qui provenait des conditions précipitées dans lesquelles on avait transposé la décision cadre dans le droit français. La Cour de justice a de manière générale conscience qu'il faut faire preuve de souplesse vis-à-vis des mécanismes constitutionnels nationaux. Et de ce point de vue, est très significatif l'arrêt qui a été rendu sur la question posée par la Cour de cassation française à propos de la compatibilité du système français de la question prioritaire de constitutionnalité avec le droit de l'Union. La Cour a admis, dans cette affaire rendue sur le renvoi de la Cour de cassation, après avoir pris d'ailleurs quelques distances par rapport à l'analyse que faisait la Cour de cassation du système français, que le juge national puisse, dans une certaine mesure, attendre avant de donner une solution définitive à une affaire dont il est saisi, alors qu'il y a toutes les apparences d'une incompatibilité de la loi nationale avec le droit communautaire, pour attendre que le Conseil constitutionnel se prononce et qu'ensuite le juge national en tire les conséquences. Dans ses rapports avec les cours constitutionnelles, la Cour de justice se montre très prudente, et c'est la raison pour laquelle, dans deux arrêts très remarqués de février 2013, elle a dit, à propos de la Charte des droits fondamentaux, que dans tous les cas où celle-ci pourrait être appliquée par les juridictions nationales, mais où il existe des standards nationaux de protection des libertés fondamentales qui peuvent jouer, le juge national peut se fonder sur son droit national et n'a pas besoin d'appliquer la Charte des droits fondamentaux. Les rapports de la Cour de justice et du Conseil de l'Europe. Juste un mot, très rapide. Il s'agit là, bien sûr, avant tout de la question de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette adhésion est prévue par le traité de Lisbonne, dans son article 6. Toutefois, elle est soumise par le même traité, plus exactement par son protocole numéro 8, mais qui a la même valeur, à un certain nombre de conditions et d'exigences tout à fait précises. La Commission avait négocié avec le Conseil de l'Europe et les autres États partis à la Convention européenne des droits de l'homme un accord d'adhésion. Cet accord d'adhésion a été soumis pour avis à la Cour de justice de l'Union européenne, selon un mécanisme qui est tout à fait comparable à l'article 54 de la Constitution française, qui prévoit la possibilité de demander au Conseil constitutionnel de prendre position sur la constitutionnalité d'un engagement international, et la Cour de justice a considéré qu'en l'état actuel, cet accord et ces instruments d'adhésion ne satisfaisaient pas aux conditions, aux obligations prévues par le protocole sur l'adhésion. Alors, est-ce que ça rend l'adhésion impossible ? Personnellement, je ne le pense pas, mais en tout état de cause, ça va obliger à prendre en considération un certain nombre de questions qui existent réellement et qui ont été volontairement par les États, par certains, volontairement par certains États, involontairement par d'autres, laissées de côté. Je termine juste d'un mot sur les rapports de la Cour avec l'Organisation mondiale, en me limitant à un seul exemple, celui du contrôle juridictionnel des mesures dites restrictives qui peuvent être prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment, et les crimes internationaux. Vous savez, on prend des décisions gelant les comptes en banque de certaines institutions, de certaines sociétés ou de certains individus. Dans ce domaine, la plupart des mesures ne sont que la mise en œuvre de décisions prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire de son comité des sanctions. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre dans le droit de l'Union européenne. La question s'est posée de savoir s'il y avait un contrôle sur la légalité de telles mesures, dès lors qu'elles avaient leur origine dans une décision du Conseil de sécurité qui normalement s'impose à tout le monde. Cela n'a pas arrêté la Cour de justice, et celle-ci a considéré que les obligations qui dérivaient pour les États de la Charte de l'ONU ne la libéraient pas, elle, du contrôle des décisions individuelles par rapport aux droits communautaires, et en particulier du contrôle des droits fondamentaux, du respect des droits fondamentaux. Et le contrôle est d'ailleurs un contrôle complet. Vous avez une section générale, ce sera ma conclusion. Comme l'a écrit l'un d'entre vous dans un petit livre substantiel consacré à l'État, cette juridiction est sans équivalent dans l'ordre international. Alors, on m'a souvent demandé si elle n'avait pas une jurisprudence politique. Ma réponse est qu'elle applique les traités dans leurs lettres comme dans leur esprit. La lettre des traités est beaucoup plus univoque qu'on le dit. Leur esprit est clair. Depuis l'origine, l'aventure communautaire a pour but une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. La Cour est une institution originale, continentale, adaptée à ce qu'est l'Union européenne, qui est bien plus qu'une organisation internationale, sans être tout à fait une fédération et encore moins un État. 2 ans avant sa mort, Jacques Barrot, que beaucoup d'entre vous connaissaient, était venu à l'université de Luxembourg parler de l'Europe dans la crise économique. Après avoir fait l'inventaire de tout ce qui allait mal, c'était un inventaire assez substantiel, il s'est écrié « Mais heureusement, il y a la Cour de justice ». Et je peux vous dire, c'est vrai. Et heureusement, il y a la Cour de justice. C'est que, dans une Europe qui a connu et connaît encore bien des crises et des secousses, la Cour apparaît comme un élément stable. Installée sur l'un des plateaux de la ville de Luxembourg, loin des centres bruxellois de décision, elle joue dans un splendide isolement le rôle de gardien du temple communautaire, fidèle à ses buts et à ses valeurs, ni plus ni moins. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire de la Cour de justice. Et pour terminer, je voudrais vous remercier très sincèrement de l'honneur que vous m'avez fait de me permettre d'intervenir devant vous.
C'est nous qui vous remercions de cet exposé extrêmement intéressant et extrêmement clair. Nous allons maintenant passer au stade des questions. Je demanderai à mes confrères qui ont des questions à poser, donc, de bien vouloir me le faire savoir. Et l'orateur répondra à chaque question, une par une. Je donne d'abord la parole à M. Dorcival.
Merci, Monsieur le Président, et surtout merci à notre communicant pour avoir été aussi complet, aussi clair qu'il l'a été. Je voudrais vous poser un cas dont vous allez évidemment reconnaître l'actualité. Le cas est le suivant. Un individu donc soupçonné d'activité terroriste et qui est finalement condamné par une juridiction française, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie par une peine de sûreté, et, pour la première fois, on lui applique une sanction nouvelle, qui est la déchéance de nationalité, de sa nationalité. À la suite de cela, la défense de cet individu épuise toutes les voies de recours du droit français et s'interroge, se pose la question de savoir quels sont ces recours en appel devant une institution européenne? Il y en a deux qui se sont présentés devant nous, si je puis dire. La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme. Cette semaine, par votre voix, la Cour de justice européenne. Quel conseil donnez-vous à cette défense pour se présenter devant l'une ou l'autre de ces institutions? Premier point. Deuxièmement, est-ce que c'est devant l'une ou l'autre, ou même les deux? Et en regard de ce que vous nous avez dit, à la fois de la citoyenneté et d'autre part de la Charte des droits fondamentaux, quel est votre avis sur la réponse qui serait faite à cette défense? Merci beaucoup, monsieur.
Vous avez la parole.
Pourquoi vous riez, Monsieur le Président ?
Parce que je pense que la question était plus facile que la réponse.
On m'avait prévenu. Alors, je vous dirais spontanément qu'il vaut mieux aller devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est plus facile et puis c'est mieux. Alors, en réalité, nous avons déjà eu à traiter de ce genre de questions. Et la difficulté de la question a expliqué que l'affaire soit jugée en grande chambre. Il s'agit d'une affaire qui s'appelle Rothman. Alors, elle ne tranche pas tout, mais elle vous donnera un élément de réponse déjà assez important. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle un ressortissant autrichien avait également la nationalité allemande. Et alors, il avait obtenu la nationalité allemande par fraude. Nous avons un vieil arrêt du Conseil d'État, Sarovitch, qu'on cite toujours à propos de la fraude. La fraude permet le retrait de l'acte sans délai. Et les Allemands avaient fait application de cette règle qu'ils ont aussi. Et donc, ils lui avaient retiré la nationalité allemande. Alors, restait la nationalité autrichienne. Mais alors, il y avait un problème sur la nationalité autrichienne. On n'était pas tout à fait persuadé qu'il ne la perdrait pas également. Et l'affaire a été portée devant les juridictions allemandes, et les juridictions allemandes ont saisi la Cour de justice en demandant à la Cour de justice si justement, comme vous le dites justement, M. Dorcival, la citoyenneté européenne s'opposait à ce que un État fasse perdre la nationalité sa nationalité. Alors, le problème vient de ce que les traités sont très clairs pour ce qui concerne la citoyenneté européenne. La citoyenneté n'est pas une nationalité. Et ont la qualité de citoyen de l'Union ceux qui ont la nationalité d'un État membre. Bon, donc il y a à la base, évidemment, la compétence des États, qui est absolument indéniable. Mais ce n'est pas tout à fait dépourvu de lien avec le statut de citoyen de l'Union, parce qu'on fait perdre le statut de citoyen de l'Union. Et la Cour a tout à fait admis que dans des cas de fraude, on puisse perdre sa nationalité, et elle a demandé aux juridictions autrichiennes, cette fois, dans une espèce d'obiter dictum, parce que c'est pas elle qui avait posé la question, de regarder si l'intéressé risquait ou non de perdre la nationalité autrichienne. Bon, si vraiment il la perd, tant pis pour lui, mais que il fallait néanmoins regarder les choses de près et, si possible, lui faire éviter, puisque tous les États sont partis à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961, éviter de fabriquer un apatride. Alors, pour revenir à votre question, je crois que si la France décidait de s'orienter vers un mécanisme ou un autre de déchéance de nationalité qui aille au-delà des règles actuelles du Code civil, ce qui semble se dessiner, la question, premièrement, pourrait se poser du point de vue du droit de l'Union. Deuxièmement, la jurisprudence actuelle de la Cour de justice ne condamnerait pas sur le principe. Ne condamnerait pas, ne s'opposerait pas sur le principe. Donc le droit de l'Union ne s'opposerait pas, à mon sens, à des dispositions sur la perte de la nationalité. Encore faut-il voir après de quelle manière, évidemment, tout cela est conçu.
Je vous remercie. Monsieur Lévite.
Merci, Monsieur le Président, et merci à l'orateur de nous avoir éclairé sur le fonctionnement de l'une des institutions de l'Europe qui fait le plus progresser l'Union vers la convergence des droits nationaux. Or, j'ai une question qui me paraît montrer que parfois l'évolution risque d'aller dans l'autre sens. Il s'agit du dossier que vous avez évoqué, de l'arrêt Schrempf, c'est-à-dire le fameux accord Safe Harbor sur le transfert des données des Européens vers le sol américain. Normalement, on devrait avoir une solution aujourd'hui ou demain, si tout va bien, c'est-à-dire un accord Safe Harbor 2 qui permettrait d'éviter d'être dans un vide juridique. Ma question est ailleurs. La vocation de la Cour européenne de justice est de faire converger les droits nationaux vers un droit européen. Or, si j'ai bien compris l'arrêt Schrempf, il demande aux différentes autorités nationales de protection des données de juger des conditions d'application de l'arrêt Schrempf, avec le risque évident d'avoir des décisions des autorités nationales complètement divergentes à un moment où, s'il n'y a pas d'accord, on risque de se retrouver dans un vide juridique. Est-ce que j'ai bien compris et comment répondez-vous à ce risque ? Merci.
Oui, merci.
Monsieur Manichaud.
Merci beaucoup pour la question, Monsieur l'ambassadeur. C'est évidemment le résultat temporaire de l'arrêt. Et on peut se demander, c'est un peu votre question, si le remède est pas pire que le mal. Alors, la question se pose d'autant plus que la Cour, dans cette affaire dans laquelle j'ai pas siégé, a été très sévère, puisque elle aurait pu limiter dans le temps l'effet de sa déclaration d'invalidité et dire, bien, la décision de 2000 de la Commission subsistera pour, par exemple, 6 mois, le temps d'en refaire une nouvelle. C'est pas ce qui a été fait. Alors, elle a renvoyé aux autorités nationales l'examen au cas par cas de la question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, prenons le cas de M. Schrempf, il appartiendra donc à l'autorité chargée de la protection des données en Irlande, d'appliquer les critères qui ont été dégagés par la Cour, ou en tout cas les constatations qui ont été faites par la Cour, pour décider si, oui ou non, l'intéressé, dans ses relations contractuelles avec Facebook, peut exiger que ces données soient stockées en Europe. Ça n'est pas tout à fait satisfaisant. Le risque est toutefois, à mon sens, limité. Je ne veux pas faire preuve de naïveté, mais je crois quand même que c'est limité pour deux raisons. La première raison, c'est que ces autorités nationales de contrôle des données sont prévues par le droit de l'Union européenne et en particulier par la directive 95/46 du 24 octobre 1995, qui est l'équivalent dans le droit de l'Union européenne de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, qui est celle qui avait créé la CNIL. Donc les CNIL, si on veut, des autres États, d'abord, elles doivent exercer, elles doivent exister, elles doivent répondre à un certain nombre de conditions qui sont fixées par les textes et qui d'ailleurs ont été développées par la jurisprudence. On a été saisi de plusieurs recours sur la question de l'indépendance, par exemple, des données en Autriche ou des équivalents de la CNIL, par exemple, en Autriche ou en Allemagne. Donc il y a une jurisprudence assez exigeante sur ce point. Donc ces autorités existent. Deuxièmement, compte tenu de ce qui a été dit dans l'arrêt Schrems, elles ont quand même du grain à moudre pour décider au cas par cas si. Mais je suis totalement d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur, que c'est une solution qui ne peut être que transitoire. Alors le problème, c'est est-ce que on pourra arriver à faire en sorte que les Américains évoluent sur ce sujet? Parce qu'alors là, si vous me permettez juste cet ajout, monsieur le Président, cet arrêt montre que nous sommes dans des univers différents. Nous sommes dans une univers. Quelle est la garantie qui avait été donnée par les Américains? Les Américains ont dit, c'est très bien expliqué dans l'AREM, écoutez, c'est très facile, nous avons un document très intéressant, qui s'appelle les frequent asked questions, c'est-à-dire les questions les plus souvent posées. Bon, qu'est-ce que c'est que les questions les plus souvent posées? Eh bien, ce sont les entreprises qui s'adressent au ministère américain du commerce et qui disent, écoutez, est-ce que ce qu'on fait là, c'est bien? Est-ce que si on faisait autrement, ce serait bien aussi? Et on doit avoir un gros bouquin qui est une espèce de compendium des pratiques des uns et des autres. Et si jamais on respecte ce qui est là-dedans, c'est satisfaisant. Alors, c'est tout à fait évident que ça n'est pas du tout la manière de raisonner, je dirais encore, continentale, qui est la nôtre. Alors le problème viendra sans doute de ce qu'il faudra que l'Union européenne se satisfasse sans doute d'un degré d'équivalence un petit peu moindre que l'équivalence absolue. Mais ça, je pense quand même que la Cour de justice est prête à, je ne vais pas m'engager pour mes collègues, mais à faire preuve au moins de réalisme dans les relations avec les États-Unis.
Je vous remercie. Monsieur Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Je rejoins nos deux confrères pour remercier l'orateur qui a été vraiment absolument remarquable, très clair, très limpide et, je dois dire, très, très convaincant. En particulier sur ce rôle d'ancrage de la Cour de justice au sein des institutions européennes. Et Dieu sait si l'ancrage des institutions européennes est important en ce moment. J'aurais deux questions. La première sur l'arrêt Gauweiler. Il me semble que vous avez considéré que la Cour constitutionnelle allemande ne pouvait que prendre note de votre décision. Est-ce que sur le plan purement juridique, c'est aussi simple que cela, quand on se situe dans le contexte juridique allemand? N'y a-t-il pas une possibilité pour la Cour constitutionnelle allemande de compliquer un peu les choses après le remarquable arrêt que vous avez rendu et qui, je dois dire, du point de vue de la stabilité de l'Europe, était absolument décisif? Parce que si vous n'aviez pas dit cela, nous étions dans un univers totalement différent sur le plan stratégique. Et ma seconde question est peut-être alors un tout petit peu critique sur la Cour. Vous avez eu à traiter l'un de ces procès magnifiques évoqués par Alexis de Tocqueville, Commission contre Conseil, sur l'application du pacte de stabilité et de croissance. En l'occurrence, le Conseil était très influencé par les grands pays, la France, l'Allemagne, sous présidence italienne, et ceux-ci refusaient que s'applique à eux-mêmes, avec toute sa limpidité, sa rigueur, le pacte de stabilité et de croissance. Donc la Commission, à mes yeux, j'étais à l'époque à la Banque Centrale Européenne, et aux yeux des petits et moyens pays, très légitimement avait décidé de demander à la Cour de justice de dire finalement que les grands États en question n'avaient pas raison de refuser l'application du pacte de stabilité et de croissance à eux-mêmes. Vous avez rendu, enfin en tout cas ce qui a été perçu par les observateurs, un jugement de Salomon, et je n'ai pas souvenir, si vous voulez, que qui que ce soit ait pu, dans cette bataille qui est loin d'être terminée d'ailleurs, tirer parti d'un jugement que nous souhaitions évidemment, nous, être un peu plus favorables à la Commission et un peu moins équilibrés, disons. Est-ce que vous avez une appréciation sur ce jugement ?
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, alors j'ai pris le risque de parler des questions financières devant le Président Trichet, mais je suis très, très, vraiment très heureux de connaître, de voir que son appréciation de l'arrêt Gauweiler est favorable. Il faut dire que la Cour constitutionnelle allemande pèse d'un poids tout à fait considérable. Elle évolue dans un système, il faut bien le comprendre, qui est très très différent du système français, qui est un système où le rôle du juge constitutionnel va très très loin, dans un système également qui est un système fédéral, et ils ont une conscience aiguë des exigences du système fédéral. Si vous me permettez juste une toute petite parenthèse, puisque je crois que l'Académie des sciences morales et politiques peut être intéressée par des vues un peu de l'intérieur. Nous rencontrons les juridictions constitutionnelles et les juridictions supérieures, disons, pour simplifier, des États membres. On y va, elles viennent nous voir. Ce sont des contacts fructueux. Soit dit en passant, nous rencontrons aussi nos homologues de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils viennent d'ailleurs à Luxembourg pour une journée de travail le 17, et ce sont des vraies journées de travail. Et lorsque nous avions rencontré à Karlsruhe la Cour constitutionnelle allemande, le président Voskuhle nous avait posé la question à l'époque de la subsidiarité. Il disait, mais comment allez-vous contrôler la subsidiarité ? Alors le président de la Cour lui avait répondu, vous savez, bien sûr, la subsidiarité est très importante, il y a un protocole là-dessus, c'est évidemment une règle, un principe substantiel, mais enfin, la Cour fera preuve de pas mal de prudence dans l'application de ce principe, parce que si le Conseil, si le Parlement européen ont décidé d'un règlement déterminé, et que personne, aucun Parlement national n'a réagi et que tout le monde est d'accord, c'est un peu difficile pour le juge de venir dire que ça ne va pas, hein, pour simplifier. Colère du président de la Cour constitutionnelle allemande, qui nous dit, mais pas du tout, vous ne devez pas faire preuve de retenue, vous devez juger en droit, de manière objective, quels que soient les accords des uns et des autres. Vous voyez, bon, la réaction du président de la Cour de justice, moi, m'avait tout à fait satisfait, mais nous sommes sur des longueurs d'onde tout à fait différentes. Alors, la Cour constitutionnelle allemande, pour l'instant, n'a pas rendu son arrêt sur les suites de Gauweiler. Je crois qu'une audience de la Cour constitutionnelle allemande est prévue en février prochain. Alors il y a deux choses que je peux noter. La première, c'est que jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle allemande s'est toujours montrée de manière pas inopportune d'ailleurs, un peu menaçante. Elle annonçait la couleur. Bon, cela dit, elle n'est jamais allée jusqu'à contrarier frontalement une décision de la Cour de justice ou à déclarer proprio motu quelque chose d'incompatible avec la loi fondamentale. Encore tout récemment, à propos du mandat d'arrêt européen, elle a rendu un arrêt le 15 décembre dernier, en disant que certaines manières de faire pourraient se heurter à la loi fondamentale allemande. Bon, très bien. Voilà, elle a annoncé la couleur. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais converti en une opposition. Je pense que honnêtement, et c'est le deuxième aspect, elle peut trouver dans l'arrêt de la Cour, qui est très développé, très didactique, et pour nous, comme vous pouvez le penser, c'est difficile d'aller sur des sujets pareils. Hein. Vous les maniez en orfèvre, nous, il faut qu'on investisse un peu plus. Heureusement, on nous donne des éléments très, très. Les mémoires sont très. L'argumentation est très précise, on nous donne beaucoup d'éléments qui nous aident. Je pense que dans l'arrêt, on trouve quand même beaucoup d'éléments qui peuvent, je dirais, aider la Cour constitutionnelle allemande à admettre qu'il n'y ait pas d'ultra-vires et qu'on ne soit pas allé au-delà des compétences de l'Union européenne. En particulier, si on regarde les précautions qui sont prises dans la communication hein, du Conseil des gouverneurs, où il est très clairement dit qu'il ne s'agit pas d'une acquisition directe hein, de titres d'État. Alors, sur le deuxième point, c'est vrai, j'ai eu moi-même un peu de... J'étais pas encore à la Cour, d'interrogation sur l'arrêt de 2004. Je pense que la Cour a fait preuve dans cette affaire d'une certaine souplesse. C'est difficile pour moi d'en dire plus. On aurait pu avoir une orientation beaucoup plus exigeante et aller dans le sens de la Commission. Tout à fait.
Je vous remercie. Monsieur Bruno Kott.
Merci, Monsieur le Président. Je remercie moi aussi Jean-Claude Bonnichot et je voudrais, en espérant ne pas dire d'énormité, lui poser deux questions d'ordre structurel, en partant de deux questions qu'il a lui-même abordées au cours de son propos. La première question a trait au règlement de procédure et de preuve et la seconde question a trait à l'avocat général. Vous nous avez dit que la Cour avait, à une date que je n'ai pas retenue, refondu son règlement de procédure et de preuve. En d'autres termes, sa règle du jeu, son code. J'aimerais savoir si elle est seule maître de cette refonte du code de procédure et de preuve. Et si tel est le cas, est-ce qu'il n'est pas un peu singulier qu'une Cour juridictionnelle se dote elle-même de ses règles de procédure ? Est-ce qu'il n'y aurait pas place, mais peut-être y a-t-il place, n'y aurait-il pas place pour une intervention des commissions juridiques du Parlement européen ? On est toujours un peu gêné quand on voit qu'un tribunal se dote lui-même de ses règles, et si tel est le cas, hein, et les modifie au gré, sans doute, des nécessités, mais ce pourrait être aussi au gré d'autres impératifs. Ma seconde question a trait à l'avocat général. J'aurais aimé savoir si la présence d'un avocat général à la Cour de justice est gravée dans le marbre. Je note qu'il n'existe pas d'avocat général devant la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il n'en existe pas devant un certain nombre de cours constitutionnelles. J'ignore s'il en existe un, d'ailleurs, je devrais le savoir, mais je ne le sais pas, devant le tribunal de première instance, qui va passer de 28 à 56. Et ma question devient un peu impertinente, je m'en excuse par avance. Est-ce que, à l'heure actuelle, ces 11 avocats généraux constituent pour les chambres de jugement une indispensable valeur ajoutée ?
Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Procureur général. Alors, sur le premier point, il faut le règlement de procédure de la Cour qui datait en gros de son origine, avec quelques modifications, il n'a jamais été refondu, a été entièrement refait sous le patronage, si je puis dire, de mon prédécesseur, le juge finlandais Alain Rosas, qui a présidé pendant plusieurs années le comité de règlement de procédure de la Cour. Maintenant, c'est moi qui le préside. On l'appelle d'ailleurs ce comité le comité du statut et du règlement de procédure. Alors, le règlement a totalement été refondu en 2012, mais on va devoir retravailler dessus, en particulier pour deux raisons. D'abord, parce que on va avoir l'augmentation du nombre de juges du tribunal, et ça va induire des modifications du règlement de procédure du tribunal et d'une autre. Et puis, d'autre part, parce que nous sommes engagés dans un certain nombre de réformes structurelles tout à fait importantes. Alors, il faut que je reprenne un tout petit peu en amont, si vous voulez. On a constaté dans les dernières années une augmentation très importante, une tendance continue à une augmentation très importante du nombre d'affaires. On a proposé dans un premier temps au tribunal Et ça s'est traduit par des délais de jugement de plus en plus longs et, comme par hasard, par un délai de jugement de plus en plus long des affaires les plus difficiles. Pensez. L'ancien président de la section du contentieux, je vois, n'a aucun étonnement devant cette constatation. Et nous avons proposé, dans un premier temps, une augmentation de 12 du nombre de juges du tribunal. C'est possible, c'est une modification du statut. Et je vais revenir sur les conditions dans lesquelles on modifie tout ça dans un instant. Alors, les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui aurait deux juges. Alors là, on se heurte à quelque chose qu'il est important que vous sachiez. L'égalité entre les États est devenue quelque chose de cardinal dans l'Union européenne. On ne peut rien faire en méconnaissant, un tant soit peu, l'égalité entre les États. Que ce soit l'Allemagne ou la Croatie, voilà, c'est pareil. Donc les États ont complètement bloqué. Et je vous dirais même que ce ne sont pas forcément sont pas les grands États qui ont été le plus bloquants, si je puis dire, mais enfin, les autres. Alors, comme dans notre esprit, il faut que les choses soient très claires, comme dans notre esprit, l'augmentation de 12 juge du tribunal n'était qu'une première étape. On ne l'a peut-être pas assez expliqué, mais dans notre esprit, c'était vraiment une première étape. Pourquoi est-ce qu'on avait proposé 12 ? On avait proposé 12, et président Trichet pourrait expliquer la situation dans laquelle on se trouvait, parce que on était en pleine crise budgétaire, en pleine crise économique, et qu'on s'était dit, même les 12, on les aura jamais, on voudra jamais nous donner les crédits nécessaires. Et comme les États ont bloqué, on s'est dit, écoutez, passons tout de suite à la vitesse supérieure. Beaucoup d'entre nous étaient persuadés qu'il faudrait doubler le nombre de juges du tribunal, et on a proposé 56. Mais on a proposé 56 en trois étapes. Il y en aura 12 qui vont être nommés cette année. Ensuite, on va supprimer le tribunal de la fonction publique, et les 7 membres du tribunal de la fonction publique, en tout cas les 7 postes, vont venir au tribunal. Ça, c'était une idée que j'avais pour éviter que la réforme ne coûte trop cher. Et puis ensuite, on rajoutera les derniers juges en 2019. Voilà l'idée qu'on avait. Alors, tout ça va faire quoi ? Tout ça va faire que, forcément, le tribunal va travailler plus. Comme les arrêts du tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi, type pourvoi en cassation devant la Cour, ça veut dire que nous, on va, à échéance proche, se retrouver avec 800-850 affaires. Je vous dis très clairement que nous sommes dans l'incapacité de juger autant d'affaires. Alors bien évidemment, quand on dit la Cour de justice a 713 affaires, ça fait rigoler, parce que, pardonnez-moi l'expression, le président du tribunal administratif de Paris ou celui du tribunal de grande instance. Mais nous sommes dans un univers différent. Le président Guillaume pourrait vous expliquer que toute affaire, je crois, un président qui peut paraître assez simple dans un contexte national devient épouvantablement compliqué, ou peut l'être en tout cas dans un contexte international. Donc nous, l'idéal serait de juger autour de 600 affaires et ce serait parfait. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire un peu ce qu'on a fait dans la juridiction administrative française, c'est-à-dire, premièrement, mettre en place à la Cour de justice un filtrage des pourvois, d'où nouvelle modification du statut et du règlement de procédure, organiser des transferts de compétences vis-à-vis du tribunal, éventuellement même des transferts de certaines questions préjudicielles, d'une manière ou d'une autre, éventuellement même transférer au tribunal certaines affaires en manquement. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des recours en manquement qui posent la question que posait à l'instant le président Trichet, respect du pacte de stabilité et de croissance. Bon, ça, ce sont des affaires d'une importance majeure. Mais je vais vous donner un autre exemple de manquement qui est actuellement à mon cabinet, dont je suis rapporteur. Est-ce que dans 3 villes d'Espagne, les stations d'épuration répondent aux normes fixées par la directive sur les stations d'épuration en ce qui concerne en particulier la demande biologique en oxygène. Voilà. Alors, je sais que le président Labetoul avait eu la gentillesse de me proposer à la nomination de président de la 6e sous-section du contentieux du Conseil d'État dans laquelle il y a toutes les affaires d'environnement. Donc, j'ai eu l'occasion de me frotter à pas mal de demandes biologiques en oxygène. Mais enfin, très franchement, est-ce qu'une affaire de ce type réclame l'intervention de la Cour de justice de l'Union? C'est une affaire de fait. Donc il faudrait, à mon sens, que pour ce type d'affaires, on puisse renvoyer au tribunal sous notre contrôle. Alors voilà un petit peu les idées que nous avons en tête et qui vont donc amener
d'autres réformes qui ne sont pas faciles à mener. Et j'ai d'ailleurs demain une réunion de mon comité sur ces sujets. Alors maintenant, la compétence. Les auteurs des traités ont prévu un système de check and balances, c'est-à-dire en réalité un système de compétences partagées. Un système de compétences partagées qui est toujours le meilleur moyen de respecter l'autonomie d'une institution quand on veut respecter son autonomie, et en particulier quand c'est, comme ici, une juridiction. Alors pour le statut de la Cour, qui a valeur de traité, ça a la même valeur que le traité. Le statut comprend différentes parties. La première, qui fixe en particulier les obligations déontologiques des juges, la structure générale de la Cour de justice, ça ne peut pas être modifié autrement que par une modification du traité. En revanche, tout le reste du statut peut être modifié selon la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire conseil-parlement, soit sur initiative, c'est l'expression qu'utilisent les traités, nous on dirait sur proposition de la Cour de justice après avis de la Commission, soit à l'inverse sur proposition de la Commission après avis de la Cour de justice. Et puis, pour le règlement de procédure, c'est la Cour qui propose les modifications de son règlement, et ça doit être approuvé par le Conseil seulement. Et pour le règlement de procédure du tribunal, le tribunal a l'initiative, mais il doit recevoir l'accord de la Cour. C'est-à-dire que rien ne sort de l'institution de la Cour, de l'institution Cour de justice de l'Union européenne, sans que la Cour de justice, la juridiction du top, la juridiction supérieure, ait donné son aval. Voilà comment ça fonctionne. Alors, maintenant, pour répondre à la question de fond, monsieur le procureur général, on pourrait imaginer que le Parlement intervienne, on pourrait imaginer que le règlement de procédure de la Cour soit fixé par le législateur. Voilà. Mais mon expérience, c'est que vraiment le système actuel est préférable, parce que d'abord, le Parlement européen s'est jusqu'à présent assez peu occupé des affaires de la Cour. Il ne les connaît pas très bien. Je ne sais pas quelle est l'expérience des uns et des autres, mais les parlements, il faut vraiment qu'ils investissent pour arriver à rentrer dans le fonctionnement interne des juridictions. Ça n'est pas simple. Là, lorsque nous avons discuté avec le Parlement européen, par exemple, une des choses qui est venue sur la table, c'est « Ah, mais il faudrait devant la Cour de justice des opinions dissidentes ». Voilà les choses qui... Voilà. Donc... Alors, nous avons un système actuel qui marche, fonctionne bien, on arrive à le faire fonctionner, il est équilibré et je préférerais pour ma part ne pas en changer.
C'est quelque chose à cet égard. Mon expérience personnelle en ce qui concerne les règlements de procédure, à la Cour de la Haye, c'est la Cour elle-même qui approuve son règlement de procédure sans aucune intervention des États. Et je crois que dans un contexte international, la situation est peut-être assez différente de ce qu'il est dans un contexte national. Je veux dire, je trouverais très dangereux personnellement de mêler les États à l'approbation d'un règlement de procédure. Je trouve qu'il est plus raisonnable de laisser les juges en décider. Enfin, on peut avoir une opinion différente. Vous aviez une autre question, si je puis me permettre, de la part de M. Bruno Cotte, qui est, à moins que vous préfériez ne pas y répondre,
non.
Qui était celle rôle des avocats généraux.
Merci beaucoup, M. le Président, de m'empêcher d'oublier ce que j'aurais jamais dû oublier. Alors moi, je suis très favorable aux avocats généraux. Alors pas seulement parce que, comme membre de la juridiction administrative française, j'aime la fonction qu'on appelle aujourd'hui de rapporteur public, mais vraiment, la fonction d'avocat général est tout à fait essentielle à la Cour. D'abord, les avocats généraux permettent de donner un cadre plus large aux affaires qu'a jugé la Cour. Ils peuvent aussi lancer des initiatives, ils peuvent faire apparaître vis-à-vis de l'extérieur des problèmes qui vont se poser. Ils voient le profil de la jurisprudence. Pour le juge rapporteur, c'est une aide considérable. C'est toujours très différent de rédiger directement un projet d'arrêt et de le rédiger sur la base de conclusions. Alors, il faut bien voir que nous sommes économes des forces des avocats généraux parce que, comme le permet le statut, nous n'avons pas de conclusion dans toutes les affaires. n'ont pas de conclusion dans toutes les affaires. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit avoir des conclusions. Je dis le chiffre de tête, j'en suis pas tout à fait certain, mais je le mettrai dans la communication écrite autour de entre 30 et 40% des affaires dans lesquelles nous avons des conclusions. Et je dois dire que lorsqu'on propose à la réunion générale de la Cour qui décide sur la formation de jugement, sur le point de savoir s'il faut ou non des conclusions de l'avocat général, lorsqu'on propose de juger sans conclusion, on fait toujours un effort sur soi-même, hein, toujours, c'est plus facile. Alors, d'autre part, les avocats généraux vont sans doute être appelés à jouer un rôle encore plus important dans la perspective de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la perspective d'une rationalisation du fonctionnement de la juridiction et du tri des pourvois. Notamment, nous sommes en train de réfléchir avec eux si pour le cas où on a des pourvois manifestement irrecevables ou manifestement non fondés, ils ne pourraient pas jouer un rôle d'orientation. Vous voyez, dire ben voilà, telle affaire doit s'orienter vers une ordonnance. Donc, on est au contraire en train de les impliquer encore plus dans le jugement des affaires. J'ajoute que, d'accord avec eux, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, nous avons décidé de limiter, sauf exception, la longueur des conclusions. En principe, les conclusions ne doivent pas dépasser environ 40 pages. C'est une espèce d'accord, de gentleman agreement entre nous.
C'est déjà bien long. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas ?
Si vous me permettez, Monsieur le Président, juste un mot que je voudrais ajouter. J'étais un petit peu rapide tout à l'heure sur cet aspect du multilinguisme. Nous travaillons donc dans les 24 langues de l'Union, ce qui veut dire que les audiences ont lieu dans la langue de procédure. Si, par exemple, c'est une question préjudicielle hongroise, eh bien, elle sera plaidée en hongrois. Si le gouvernement français veut intervenir, comme il le fait très souvent, et nous avons ici le directeur des affaires juridiques, Monsieur Alabrune, qui pilote tout ça, on intervient en français, et j'en profite pour dire d'ailleurs que la représentation de la France devant la Cour de justice par la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères est remarquable. Et nous avons des interprètes. Nous avons des interprètes, une centaine d'interprètes qui sont des as de l'interprétation. Et pour les pièces écrites, nous avons évidemment une direction de la traduction. Sur les 2000 personnes de la Cour, 1000 personnes sont affectées à la fonction linguistique. La centaine d'interprètes et environ 900 traducteurs. Et les dossiers, tout dossier, matériellement, je termine là-dessus, mais je crois que c'est important que vous le sachiez, tous les dossiers sont en 2 versions, la version de la langue de procédure, par exemple l'allemand, si ça vient de l'Allemagne, et le français.
Voilà. J'ai entendu dire, mais c'est peut-être une rumeur inexacte, qu'il a pu arriver que certaines chambres de la Cour délibère en anglais. Est-ce que c'est exact ?
Ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, tant le président de la Cour actuellement que le greffier sont très attentifs à ça. Si vous voulez, la question de la langue et du français à la Cour, périodiquement, évidemment, il y a une petite discussion sur ce point, tous les 5-6 ans, on dit, mais après tout, alors c'est exactement comme vous dites, Monsieur le Président, c'est-à-dire que, surtout au tribunal, où ils jugent à 3 juges, ils se disent, mais écoutez, si la langue de procédure c'est l'anglais, si on est plus à l'aise en anglais, si toutes les plaidoiries sont en anglais, pourquoi on ferait pas le projet de motif en anglais? Bon. Mais ça pose un problème de fonctionnement de la Cour de justice. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les circuits administratifs, les circuits de traduction sont basés sur le fait que le français est la langue de délibéré. Nous délibérons en français et les différentes divisions linguistiques traduisent le projet vers les autres langues. Si jamais on commence à délibérer en anglais, ça veut dire qu'on va faire le projet en anglais. Il faudra donc que les divisions traduisent de l'anglais. Or ça, bien sûr, ils sauraient sans doute le faire au bout de quelques années, mais c'est une opération extrêmement difficile. Et par conséquent, pour l'instant, le français est bien installé, mais j'insiste, alors là, je peux me permettre de le faire auprès de l'Institut, ça dépend de la France. C'est-à-dire que si nous accueillons des étudiants étrangers, si nous avons nos lycées français à l'étranger, si nous avons des échanges, on continuera à avoir des gens qui parlent français. Mon collègue tchèque a fait ses études à Dijon. Mon collègue polonais a fait ses études à Strasbourg. Bon, voilà. Donc, voilà.
Et votre collègue tchèque a même publié dans le dernier numéro de la Revue Générale de Droit International Public
tout à fait.
Un long article commentant un arrêt de la Cour. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Si, je vais vous en poser une dernière, moi. En ce qui concerne les droits de l'homme, vous avez donc la Cour de Strasbourg qui va contrôler la conformité des actions des États avec la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez vous-même un contrôle de la conformité des décisions communautaires, à tout le moins, avec les règles de droits de l'homme contenues dans le pacte, la charte des droits civils et politiques. Alors, je crois me souvenir que vous avez décidé plus ou moins que la jurisprudence de Strasbourg était un élément de votre jurisprudence. Vous pourriez être un peu plus précis là-dessus.
Tout à fait. Alors, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'équivalent à une déclaration des droits dans le droit de l'Union européenne. Et puis, tous les États de l'Union était parti d'un autre côté à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors la jurisprudence de la Cour a évolué de la manière suivante. À la fin des années 60 et dans le courant des années 70, la Cour a commencé par dire que la protection des droits fondamentaux faisait partie des principes généraux du droit dont elle assurait le respect. Bon. Ensuite, elle a été un tout petit peu plus précise en disant que dans le contrôle qu'elle pouvait exercer, qu'il appartenait aux juridictions nationales d'exercer, il fallait tenir compte des instruments de protection des droits de l'homme auxquels les États avaient adhéré. Et puis, à partir des années 80, la Cour a dit que la Convention européenne des droits de l'homme revêtait à cet égard une signification particulière. Bon. Alors, en réalité, on a commencé à faire très attention à ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la Cour de Strasbourg. Et il y a un très bon exemple dans deux arrêts de 1989 rendus en matière de concurrence, l'arrêt Hoechst en particulier et International Chemical, dans lesquels la Cour, à propos des perquisitions domiciliaires, avait été saisie de la question de savoir si la protection des locaux commerciaux devait être assurée au même niveau que la protection des domiciles privés. Elle a dit non, et elle a noté dans son arrêt, et d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet. Ce qui montrait bien qu'on était prêt à suivre. Alors après, la Cour a commencé à citer assez souvent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien que un peu partout on ait dit un jour ça va mal se passer, il y aura un conflit, ça n'est jamais arrivé. Et puis est arrivée la Charte des droits fondamentaux. À la Charte des droits fondamentaux, là le problème c'est presque inversé. C'est-à-dire que la Charte des droits fondamentaux est un instrument qui comporte une cinquantaine d'articles, hein, pas de fond. De fond, pas de procédure. Alors que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une douzaine d'articles de fond. L'article 13 sur le recours effectif, l'article 14 sur la non-discrimination en matière de droit protégé par la Convention, et tout le reste, c'est procédural. À ça s'ajoutent quelques protocoles, et si on prend les dispositions de fond qui sont applicables, au total, ça fait 20 à 25 dispositions de fond. La charte, c'est une cinquantaine de... Et alors, donc, la Cour ayant son instrument maintenant, nous avons décidé de citer la Charte des droits fondamentaux et de ne nous servir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que dans le cas où ce serait absolument indispensable. Voilà comment nous procédons à l'heure actuelle. Alors, où est l'inversion ? L'inversion, c'est que si vous regardez actuellement l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, vous voyez que de plus en plus, elle cherche son inspiration dans la Charte des droits fondamentaux. Parce qu'il y a presque plus d'éléments dans la Charte des droits fondamentaux que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce qui nous ennuie un peu, d'ailleurs, on en parle très librement avec eux, on leur dit, ne vous servez pas trop de la Charte, parce que vous allez anticiper sur des solutions qui nous appartiendraient peut-être à nous de dire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Je vous remercie. Et si l'Union adhérait à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui à l'heure actuelle est exclu, quelles seraient les quelles seraient les conditions? Est-ce qu'il faudrait que l'Union soit représentée, par exemple, au sein de la Cour de Strasbourg?
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette question. Ça me donne l'occasion d'abord de dire une chose qui est très importante. La Cour vient de rendre un avis défavorable à l'adhésion. Et bien sûr, déjà, un peu partout, on dit la Cour protège son précaré, elle ne veut pas se retrouver sous le contrôle de la Cour de Strasbourg. Alors, c'est jamais agréable de se retrouver sur le contrôle de quelqu'un d'autre, et c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir le dernier mot. Mais je peux vraiment vous dire, très sincèrement, que dans cette affaire de l'avis, cet aspect, je dirais, presque de susceptibilité, ou cette idée de ne pas vouloir être sous le contrôle de quelqu'un d'autre, n'a pas joué. Nous savons tous que le Conseil constitutionnel français, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle allemande peuvent voir leurs décisions remises en cause par la Cour de Strasbourg. Dans l'affaire Lambert, merveilleusement jugée par le Conseil d'État, est allée devant la Cour de Strasbourg. Bon, mais nous, si on adhère, ce sera pareil. Et puis voilà, et on fera avec, et on dira ce qu'on a à faire. On tirera les conséquences des arrêts de la Cour. Si l'Union adhère, effectivement, il doit y avoir un représentant de l'Union à la Cour européenne des droits, enfin, représentant de l'Union, un juge de l'Union à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un mécanisme de défense des actes de l'Union qui est prévu. Et ce mécanisme s'appelle le mécanisme du co-défendeur. On a jugé qu'il n'était pas satisfaisant à l'heure actuelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'avis a été négatif. Un des points très très importants dans l'adhésion est le suivant. C'est comment appliquer le principe fondamental de subsidiarité à l'intérieur de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme le dit, mon contrôle est subsidiaire. Comment faire dans l'Union européenne qui est une union d'États? Alors, le mécanisme qu'il faut mettre en place, qui a été d'une certaine manière mis en place, mais pas de manière satisfaisante, doit permettre, je dirais, en termes simples, à la Cour de justice de l'Union européenne de solder les questions de droit communautaire avant qu'elles ne soient portées devant la Cour de Strasbourg. Voilà, ça c'est le point essentiel. Nous, qu'on dise ce qu'on a à dire, le droit communautaire dit qu'il doit s'interpréter de cette façon, il est valide, il n'est pas valide, il est légal, il n'est pas légal. Bon, et puis ensuite, la Cour de Strasbourg dira ce qu'elle veut. Ça sera son rôle. Mais ce qu'il faut, c'est que la Cour de justice ait pu prendre parti avant sur les questions de droit communautaire qui se posent.
Je vous remercie. Un dernier mot à M. Gattaz, qui a eu un repenti. Je lui donne la parole.
Non, c'est anecdotique. Je voudrais d'abord féliciter M. Bonichaud, car même les incompétents semblent avoir compris. Ce qui est quand même un compliment rare, n'est-ce pas ? Ce qui est important. Alors, simplement, nous sommes un peu surpris, tous ceux qui sont incompétents, par la complexité des problèmes européens. Un de mes petits-enfants me disait un jour, avec 28 États, il faut 28 interprètes, et je lui ai expliqué que, avec la loi des combinaisons et des arrangements que les ingénieurs qui sont ici connaissent bien, la liaison entre deux personnes dans un groupe de N, c'est N facteur de N moins 1 sur 2, ce qui fait pour 28 multiplié par 27 sur 2, je viens de le faire sur le coin de la table, ça ferait 378. Mais si on prend un interprète pour le thème et un autre pour la version, vous multipliez les chiffres par 2. Et donc on arrive à 756 interprètes, en admettant que tous les États aient une langue bien particulière et qu'il faille traduire même pour deux États. Voilà. Je voulais simplement faire une petite remarque sur la complexité des problèmes internationaux pour ceux qui ne sont pas très compétents.
C'est le nom. Merci. Traduire le maltais en finlandais ne doit pas pouvoir se faire très facilement tous les jours.
Ça, c'est sûr, oui.
Bien. Sur ce, je crois que nous sommes arrivés au terme de nos débats. Je remercie encore une fois très vivement M. Bonichaud de son exposé qui a été très apprécié des juristes qui en majorité se sont tus et très apprécié des non-juristes qui ont pu poser des questions. Merci beaucoup.
C'est un bon orateur.